إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لوتر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى dit ensuite الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Le troisième, c'est-à-dire le troisième des annulatifs de l'islam, est que quiconque ne considère pas les polythéistes comme mécréants, doute de leur mécréance ou approuve leur idéologie, alors il a mécru. Ceci est donc le troisième annulatif de l'islam mentionné par l'auteur rahimahullah ta'ala. On distingue à travers celui-ci trois questions qui sont d'une importance immense. Et on va voir inshallah ta'ala la différence entre celles-ci. Et ces trois questions, elles entrent sous la généralité de l'obligation pour le musulman de se désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala de toute personne qui n'est pas sur l'islam, et ce, quelle que soit sa religion ou sa croyance. Il est obligatoire pour le musulman de les considérer comme mécréants, car celui qui ne considère pas le mécréant comme tel, il est lui-même mécréant, et on va voir à ce sujet différentes questions dans cette assise, incha'Allah ta'ala. La première question est: qu'est-ce que le takfir ? Le takfir, qui est le fait de considérer un individu mécréant, ou alors de statuer de la mécréance d'un musulman. Cela pourrait être traduit en français par l'excommunication. Le takfir, donc, c'est un jugement qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un jugement qui est présent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, tu trouves dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de nombreux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala juge de la mécréance d'individus comme les juifs, les chrétiens, les polythéistes et autres. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, au verset 17 de Sourate Al-Ma'idah, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Ils sont certes mécréants, ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Mariam, c'est-à-dire les chrétiens. Et dans une sourate que vous connaissez tous, sourate Al-Bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui ont mécru, min ahli al-kitab wal mushrikin, parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et les polythéistes, fi nar jahannam khalidin fiha, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ulaika hum sharrul bariya, ce sont eux les pires de toute la création. Donc comme vous le voyez, ce verset est très clair, et les versets à ce sujet dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Il est donc obligatoire pour le musulman de faire le takfir, c'est-à-dire de considérer mécréant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ont jugé mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé comme mécréant les polythéistes, il a jugé comme mécréant les adorateurs d'idoles et tous ceux qui adorent d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a également jugé comme mécréants ceux qui n'ont pas cru au messager alayhimu salat wa salam, ou ceux qui n'ont pas cru à certains d'entre eux. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé mécréants les gens du livre, juifs et chrétiens, il est donc obligatoire pour le musulman d'avoir la ferme conviction que ceux-là sont des mécréants. Tu dois y croire avec certitude et sans être touché par le moindre doute. En effet, le fait de renier cela ou de douter à ce sujet, cela revient à quoi? Cela revient à démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à douter de la véracité de son livre. C'est pour cela que celui qui ne fait pas le takfir des polythéistes ou qui doute de leur mécréance, ou pire encore, qui approuve leur idéologie, alors celui-ci est lui-même mécréant et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question est: qui sont les polythéistes visés par l'auteur? Il a dit: quiconque ne considère pas les polythéistes comme mécréants. Qui sont les polythéistes qui sont visés ici? C'est-à-dire, qui sont ceux qu'il est obligatoire pour le musulman de considérer comme mécréants? Il est important de savoir ici que ce qui est visé par le polythéisme et la mécréance, c'est ce qui est clair et évident, connu et confirmé par celui qui le renie. C'est-à-dire que celui qui a connaissance de la mécréance ou du polythéisme d'une personne, que cela est confirmé par un texte du Coran ou de la Sunna, et qu'il n'y a pas de divergence quant au fait que cela est de la mécréance. Puis que celui-ci, il ne le considère pas mécréant. Il s'abstient, ou alors il doute à ce sujet. Alors celui-ci, il est lui-même mécréant, wal'iyadu billah. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans ses fatawa: tous ceux dont la législation a jugé de leur mécréance, il est alors obligatoire de faire leur takfir, c'est-à-dire de les considérer mécréants. Et celui qui ne considère pas mécréant ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont jugé mécréants, alors c'est lui-même un mécréant, et ce, si leur mécréance est confirmée pour lui par une preuve religieuse. Donc on voit à travers la parole de cet imam qu'il est indispensable que cela soit confirmé par les preuves pour celui qui le renie. De même, il est important de savoir que l'auteur, rahimahullah, ici il ne vise en aucun cas la mécréance sur laquelle les gens de science ont divergé. Comme c'est le cas par exemple du délaissement de la prière par paresse ou par négligence. Les savants, ils divergent à ce sujet. Certains savants considèrent que celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, alors c'est un mécréant. Et d'autres, ils ne le considèrent pas comme tel, mais ils le considèrent comme désobéissant, coupable d'un grave péché qui relève d'ailleurs de la mécréance mineure. Mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. Tant qu'il ne renie pas l'obligation de la prière, alors ces savants-là considèrent qu'il est musulman. C'est un musulman désobéissant, à la fois défaillante. Donc si quelqu'un, il doute de la mécréance de celui qui délaisse la prière, ou qui s'abstient, il dit « je ne sais pas, je ne sais pas s'il est mécréant ou pas », alors celui-ci, il n'est pas mécréant, car la question est sujette à divergence entre les gens de science. Donc il faut bien prêter attention à cela. Ces questions, comme vous le voyez, elles sont très pointilleuses. C'est pour cela que les savants disent qu'il est obligatoire de faire preuve de prudence et de faire preuve de vérification et de ne pas s'empresser sur ces sujets. Au contraire, il est plutôt obligatoire pour les gens du commun de ne pas s'avancer sur ces choses-là, et ce avant d'avoir interrogé les gens de science, afin d'agir avec clairvoyance, car ces questions, ce ne sont pas des questions à prendre à la légère, mais ce sont des questions qui sont très pointilleuses, comme vous le voyez, et elles demandent science et clairvoyance. Troisièmement, quelle est la différence entre les trois cas mentionnés par l'auteur? L'auteur, rahimahullah, il a fait la différence dans cet annulatif entre trois cas. Il a dit le premier, c'est celui qui ne considère pas les polythéistes mécréants. Comme on a dit précédemment, il n'affirme pas leur mécréance. Il s'abstient ou refuse de faire leur takfir. Alors celui-ci, il est lui-même mécréant, car en faisant cela, il dément la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son jugement. Le deuxième, c'est celui qui doute de leur mécréance. Il hésite. Il dit « je ne sais pas s'ils sont mécréants ou non. Allah sait mieux. » Celui-ci aussi, il est lui-même mécréant. Car en réalité, en ayant ce doute, il doute de sa religion. Il ne fait pas la différence entre la foi et la mécréance, entre le tawhid, l'unicité, et le shirk, le polythéisme. Ainsi, son doute et son hésitation à considérer les polythéistes comme mécréants le font sortir de l'islam, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième cas, c'est celui qui approuve leur idéologie. Et celui-ci, c'est le pire. Il approuve l'idéologie des polythéistes. Il va même jusqu'à les défendre. Et ceux-là, ils sont malheureusement nombreux à notre époque parmi les imams de l'égarement. comme ceux qui appellent à l'unité des religions et qui prétendent que le judaïsme ou le christianisme sont des religions authentiques au même titre que l'islam. Ils prétendent que les adeptes de ces religions sont tous des croyants et qu'il ne faut pas les considérer mécréants. La mécréance de celui-ci, elle est donc plus grave que celle de celui qui doute de leur mécréance. Et quelle est la principale ambiguïté que propagent ces gens-là? Ils disent, ils sont tous croyants, car ils suivent tous les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Ils disent, les juifs, ils suivent Moussa alayhi salam. Et les chrétiens suivent Isa alayhi salam. Mais en réalité, celui qui a connaissance de sa religion et de sa croyance, il sait que les juifs et les chrétiens ne suivent ni Moussa, ni Isa alayhi salam. Car s'ils les avaient suivis, alors ils auraient cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Moussa et Isa alayhi salam ont annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 157 de Surat al-A'raf, lorsqu'il décrit les croyants en disant الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le verset 6 de Surat al-Saf que Isa alayhi salam, il est venu annoncer la venue de qui? La venue d'un messager après lui. Et ce messager n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes dit dans le hadith, quiconque parmi les juifs et les chrétiens entend parler de moi, puis ne croit pas en ce avec quoi je suis venu, ira inévitablement en enfer. Ceci est la parole du véridique et du digne de confiance sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, au verset 85 de Surat Ali Imran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ceci est donc la croyance du musulman. Et cette croyance, elle n'est pas négociable, elle n'est pas ajustable. Celui qui dément cela, il ne fait pas partie du nombre des musulmans. Il faut donc prendre garde à ces propagandes menées pour corrompre la croyance du musulman, et ce sous différentes formes. Et ceci est la quatrième question que nous allons voir. Sous quelle forme se manifeste cet annulatif de l'islam? Cet annulatif, il se manifeste sous différentes formes, dont la principale, comme on l'a dit, est l'appel à l'unité des religions. En prétendant par exemple que l'islam, le judaïsme, le christianisme sont toutes des religions célestes et authentiques. Et ceux qui sont à la tête de cette idéologie, ils font beaucoup d'efforts dans cette propagande par l'organisation de congrès pour appeler à cette idéologie corrompue, n'ayant d'autre but que d'anéantir la croyance saine du musulman et de faire disparaître l'alliance et le désaveu qui sont légiférants en islam. Également, parmi les formes de manifestation de cet annulatif, il y a le fait de dire que les trois religions sont des religions monothéistes, ou alors des religions qui rapprochent toutes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les appeler comme ils le font, les religions abrahamiques, en référence à Ibrahim alayhi salam. Comment peut-on dire que les trois religions sont monothéistes, alors que le chrétien adore Isa alayhi salam en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont basé leur croyance sur le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, de même que les juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment peut-on dire que ceux-là ont une religion monothéiste? En réalité, leur religion était altérée, dénaturée, et ce n'est plus la religion à laquelle on appelait Moussa et Isa alayhim as-salatu wassalam. Également, parmi les formes de manifestation de cet annulatif, il y a le fait de refuser de les considérer mécréants, en disant ne les appelez pas mécréants, ou de lutter contre cette appellation, en disant appelez-les l'autre groupe, ou l'autre partie, ou les non-musulmans, ou autre appellation ayant pour objectif de dénaturer et affaiblir la croyance du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a clairement nommés mécréants dans son livre. Il nous suffit donc de les nommer tels qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés. Et il n'y a aucun mal en cela. Celui qui ne croit pas en l'islam, il mécroit en l'islam. Donc c'est un mécréant. Et il n'y a aucun mal derrière cette appellation. C'est simplement la réalité de leur situation. Également, parmi les formes de manifestation de cet annulatif, il y a le fait d'invoquer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les têtes de la mécréance et du polythéisme. Comme l'a fait un des grands imams contemporains de l'égarement, un des leaders du groupe des frères musulmans, lorsqu'il a invoqué il y a quelques années la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur du pape qui est décédé. Il n'y a pas de doute que ceci est une manière de corrompre la croyance du musulman. Car le musulman, il a la ferme conviction que celui qui est mort sur la mécréance, qui est mort sur le polythéisme, alors le paradis lui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala le prive de sa miséricorde. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque donne des associés à Allah, alors le paradis lui est interdit. Son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Ceci sont donc quelques formes de manifestation de cet annulatif. Il y en a d'autres qui sont nombreuses. Et le musulman, il doit prendre garde et s'en écarter. Et il ne doit pas se laisser tromper par le grand nombre de gens qui se sont égarés à ce sujet. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. » Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Cinquièmement, parmi les questions liées à cet annulatif, quelles sont les choses qui découlent du fait de considérer les polythéistes comme mécréants? Il y a de nombreuses choses qui découlent de ce jugement. Et ici, on va en mentionner quelques-unes, incha'Allah ta'ala. Premièrement, il est obligatoire pour le musulman d'avoir de l'aversion pour les mécréants, même s'ils font partie de ses plus proches parents. Comme on l'a vu lors de notre étude des trois fondements, et comme le prouve le dernier verset de Surat Al-Mujadala, ainsi que de nombreux autres versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le verset 4 de Surat Al-Mumtahana, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ » Vous avez certes un excellent modèle à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » Quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. » كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ Nous vous renions, et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Ceci est donc la croyance du musulman. Ceci ne veut pas dire que le musulman est violent ou extrémiste. Ou encore, ceci ne veut pas dire que le musulman n'adopte pas un bon comportement avec les mécréants parmi ses voisins ou ses proches. Non, bien au contraire. Le musulman, il a toujours en tête qu'il est un prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala à travers son comportement. Il est donc bienveillant envers ses voisins. Il est bon avec ses proches et surtout avec ses parents, même s'ils sont mécréants. Et l'amour naturel que le musulman éprouve pour ses proches qui sont mécréants, cela ne s'oppose pas à cette aversion religieuse qu'il éprouve pour eux à cause de la mécréance. Vous voyez, dans cette dunya, les gens ils se détestent, ils s'allient et se désavouent pour des choses futiles. Certains en fonction de leur patrie, d'autres en fonction de leur couleur ou de leurs origines, d'autres en fonction de choses encore plus futiles, comme une équipe de foot, une équipe de basket, ou autres parmi les choses liées à ce bas monde. Et tout ceci est rejeté en islam. En islam, il n'y a que la piété et la foi qui font la différence entre les gens. Il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir. Il n'y a pas de différence entre le chinois ou l'américain. Il n'y a pas de différence entre celui qui vient du nord ou du sud. Il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe. Donc, il n'y a que la piété et la foi qui font la différence entre les gens en islam. Et l'alliance et le désaveu du musulman, ils ne sont basés que sur cela et sur nulle autre chose. Deuxièmement, parmi les choses qui découlent du takfir des mécréants, si le polythéiste ou le mécréant meurt, le musulman, il ne se charge pas de sa dépouille. Et il ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. Il ne s'en charge que dans le cas où personne parmi les mécréants ne peut le faire, et ce en faisant le strict minimum. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali, radiyallahu ta'ala anhu, d'enterrer son père, Abu Talib, qui est mort sur la mécréance. Troisièmement, parmi les choses qui découlent du takfir des mécréants, il y a le fait que le musulman n'hérite pas du mécréant, et le mécréant n'hérite pas du musulman, comme il est venu dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, d'après Usama ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhu. Quatrièmement, il n'est pas permis à la musulmane de se marier à un polythéiste ou à un mécréant. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset 10 de Surat al-Mumtahana, « La hunna hillul lahum, wa la hum yahilluna lahun. » Elles ne sont pas licites pour eux, et ils ne sont pas licites pour elles. Ceci est donc interdit, et ce de manière absolue. Cinquièmement, parmi les choses découlant du takfir des mécréants et du fait de se désavouer d'eux, il y a l'obligation de la hijra, l'obligation d'émigrer d'une terre de mécréance à une terre d'islam. Il est donc obligatoire pour le musulman qui ne peut pas extérioriser sa religion d'émigrer vers une terre d'islam. Et ce comme l'a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils ont émigré de la Mecque à Médine. Donc le musulman, qui n'est pas en mesure d'extérioriser sa religion, et qui a les capacités de faire la hijra, alors celle-ci est obligatoire pour lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset bien connu de Surat An-Nisa, « Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim » قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire en restant vivre dans les terres des mécréants, alors qu'ils avaient la capacité de partir vivre parmi les musulmans, les anges enlèveront leurs armes en disant où en étiez-vous, c'est-à-dire à propos de votre religion. Ils diront, nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Illa al-mustad'afina min al-rijal wal-nisa'i wal-wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Fa'ulaika 'asa Allah an ya'fuwa 'anhum wa kana Allah 'afuwan ghafura. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Donc seul celui qui n'a pas les capacités est excusé. Mais celui qui a les capacités, alors il est obligatoire pour lui d'émigrer et il ne lui est pas permis de résider en terre de mécréance. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me désavoue de tout musulman » qui vit parmi les polythéistes. Donc celui qui n'est pas capable d'extérioriser sa religion. Et attention ici, il est important de savoir qu'extérioriser sa religion, cela ne signifie pas seulement faire ses cinq prières, jeûner le mois de Ramadan, donner la zakat et faire le pèlerinage. Extérioriser sa religion, c'est bien plus que cela. C'est pouvoir se désavouer et condamner et blâmer ouvertement le polythéisme et la mécréance. Ordonner le bien, interdire le mal, pratiquer l'ensemble des rites de sa religion. Et parmi les choses les plus importantes sur lesquelles sont insouciants nombre de nos frères et sœurs, il y a le fait de pouvoir inculquer à ses enfants une éducation islamique. Et qui peut prétendre cela aujourd'hui dans certains pays de mécréants? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Donc celui qui n'a pas les capacités d'extérioriser sa religion et qui a les capacités d'émigrer en terre d'islam, alors la hijra pour lui, elle est obligatoire. Et ici, j'aimerais faire une parenthèse au sujet des capacités. En effet, il m'est parvenu un enregistrement d'un cours d'un prédicateur qui a restreint les capacités au fait de détenir la nationalité d'un pays musulman. Il n'y a pas de doute que celui qui détient la nationalité d'un pays musulman, alors ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, il se doit d'être reconnaissant pour cela et s'empresser de faire les causes pour quitter la terre de mécréance et partir vivre dans son pays qui est une terre d'islam. Cependant, c'est une erreur de restreindre les capacités à cela. En effet, le fait d'avoir les capacités est bien plus large que cela. Entre dans cela de nombreuses choses, comme les causes financières, les causes de santé, ou bien d'autres choses qui rentrent dans les capacités de la personne. Donc, dire que de manière absolue, que toute personne qui détient la nationalité d'une terre d'islam, alors la hijra lui est obligatoire dans tous les cas, ceci est une erreur, bien que dans la majorité des cas, elle est obligatoire pour eux. Cependant, on ne peut pas donner ce jugement de manière absolue. Et de la même manière, dire que celui qui n'a pas de nationalité d'un pays musulman, alors la hijra n'est pas obligatoire pour lui car il n'a pas les capacités. Également, ceci est une erreur et c'est restreindre ici un jugement d'une manière dont Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas restreint. Bien évidemment, il n'y a pas de doute que tout ce qui est administratif aujourd'hui entre en compte dans le choix d'une personne quant au pays vers lequel elle va faire la hijra. Cependant, le fait de pouvoir vivre en terre d'islam ne se limite pas à en détenir la nationalité. Et ce n'est pas parce que tu ne possèdes pas la nationalité du pays musulman dans lequel tu vis que la hijra n'est pas obligatoire pour toi. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité et t'a permis d'avoir une résidence en terre d'islam, tu as donc les capacités d'émigrer et l'obligation s'applique sur ton cas. Combien de personnes parmi nos frères et nos sœurs qui ne détiennent pas de nationalité d'un pays musulman vivent en terre d'islam en toute sécurité depuis de nombreuses années. Ceci était donc une petite parenthèse que je souhaitais faire à ce sujet. Sixièmement, parmi les choses découlant du takfir des mécréants, il y a le fait de ne pas faire leurs éloges et de ne pas les vanter. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans son livre. Alors pourquoi viens-tu leur faire des éloges? Pourquoi viens-tu leur faire des éloges alors qu'ils détestent ton messager alayhi salatu wassalam? Il y a des gens parmi les musulmans qui disent « Oui, mais ils sont honnêtes, ils sont justes dans leurs transactions. » Puis ils font leurs éloges, et ensuite, ils dénigrent les musulmans en disant « Ils font ceci et cela comme péché. » Il faut que tu saches que même si un musulman fait les plus graves des péchés, en dehors du polythéisme et de la mécréance, alors il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tout mécréant, quelles que soient les qualités des mécréants. Et il faut que tu saches également qu'il n'y a pas une qualité que tu trouves chez les gens du faux et les gens de la mécréance sans que tu ne la retrouves en mieux chez les gens de la vérité et les gens de l'islam. Et il n'y a pas un défaut que tu trouves chez les gens de la vérité sans que tu ne le trouves en pire chez les gens du faux et de la mécréance. Enfin, septièmement, parmi les choses qui découlent du takfir des mécréants, il y a l'interdiction de s'assimiler à eux, que ce soit dans leurs vêtements qui leur sont propres, ainsi que dans leurs coutumes, et le pire dans cela est de s'assimiler à eux dans leurs adorations et dans leurs cultes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'assimile à un peuple en fait partie. » Car celui qui s'apparente à eux, qui s'assimile à eux dans son apparence, alors ceci indique quoi? Ceci indique qu'il éprouve une forme d'amour dans son fort intérieur envers eux. Car celui qui aime des gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche à leur ressembler. Et qui est l'homme que le musulman aime le plus? Qui est l'homme que le musulman aime plus que ses enfants, plus même que sa propre personne? La réponse est que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, il doit donc chercher à ressembler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans son apparence que dans ses paroles et dans ses actes. Ceci était donc quelques questions liées à ce troisième annulatif. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.